survivant de la violence, M. Noé, M. Repos, son nom Noir signifie le repos. Et on voit Dieu, on perçoit Dieu de la même manière. Car Dieu apparaît comme violent, c'est lui qui détruit.
Ah oui, il a tout créé, il a tout mis en route.
Ça dépend finalement de lui. Monsieur, c'est lui. C'est vrai que si le professeur n'avait pas proposé ou interdit, ce qui se passe, la bagarre qui se passe dans la classe ne serait pas arrivée. Il est là, c'est lui le responsable. Manière de découvrir, puisque son image est en nous, que nous sommes responsables. Mais on ne va pas toujours jusque-là. Que nous sommes responsables de ce déluge qui arrive sur la terre. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Encore une offrande. Noé fait un sacrifice. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme l'homme, puisqu'il est dans l'homme. Voulez-vous qu'il fasse? Il fait un sacrifice de paix, pour symboliser la paix. On a compris que la violence ne menait à rien, et on va instaurer un régime de paix. Et Dieu fait pareil. Il prend son arc et il le met de côté, il le met sur un nuage. Car l'arc, c'est un instrument pour tirer, hein. Évidemment, quand nous voyons l'arc-en-ciel, nous ne voyons plus qu'il y a un instrument pour tirer, mais on ne parle pas d'arc-en-ciel hein, dans le texte, on parle d'arc, que Dieu a déposé son arc sur les nuages. C'est-à-dire, il dit, je laisserai la violence de côté. Je ne détruirai plus la terre. Où est-il ce je? Ah, il est dans l'image qu'est l'homme. Je ne détruirai plus la terre. Mais on a beau se réunir à Rio ou ailleurs, on a beau dire « nous ne détruirons plus la terre », on continue de détruire la terre. Ah, le déluge est toujours en route. Nous n'avons pas fini. Et il y a de temps en temps des survivants, et ces survivants sont des prophètes pour les autres. Pour les autres. Quel regard poses-tu sur ce monde? Quel regard poses-tu sur ton père? Et nous voyons effectivement que Cam voit son père qui a fabriqué du vin et qui s'est enivré, c'est-à-dire qui n'a plus toute sa conscience, qui s'est enivré et qui s'est déshabillé dans sa tente, et il le voit. Quel regard jette-t-il sur son père, nu, c'est-à-dire tout à fait vulnérable? Se moquer d'un père, d'un Dieu nu et vulnérable, qui s'est rendu vulnérable, ou bien le protéger, découvrir qu'il est précieux, que la vulnérabilité, que la fragilité, ma fragilité aussi d'ailleurs, est extrêmement précieuse. C'est à partir de là qu'on va construire. Et que Dieu fait pareil. Il a mis son arc sur le nuage, il est nu maintenant, il est tout à fait vulnérable. On peut l'atteindre. Il n'a plus de défense. Comment vivons-nous ce Dieu vulnérable? Mais la violence existe. La violence a marqué sa force, sa puissance d'expansion. La violence a détruit. Il suffit de lire nos journaux ou de regarder la télévision pour voir que... Et ce fut ainsi. La violence existe. Concession à la violence. Dieu permet à l'homme, dit d'une manière autrement, on va changer de menu. Jusqu'ici, on était végétarien, maintenant, on va pouvoir devenir carnivore.
Vous avez en vous un instinct de tuer.
Mortifère.
Je vous concède les animaux plutôt que les hommes.
Les animaux. Pour votre nourriture. Vous avez besoin en quelque sorte d'assouvir votre violence. Et c'est vrai qu'il y a une part d'animalité en nous qui assouvit la violence des autres et la nôtre propre. Nous nous faisons du mal. Nous nous cognons notre chair. Et nous la tuons par notre violence. C'est pas seulement la violence de l'animal, mais c'est la violence animale, c'est-à-dire qui est toujours en nous, comme un instinct animal. Que ce soit d'ailleurs sur les autoroutes ou ailleurs. Il y a diverses manières de se supprimer. Hein. Alors qu'on avait fait un sacrifice de paix et que Dieu avait dit la paix. Il est d'accord avec cette paix. Mais voilà, une concession est donnée. Mais limitée. On ne va pas vous permettre n'importe quoi. Il y a une loi. Et c'est le début d'ailleurs de ce qu'on a appelé, hein, dans la théologie juive, les lois noachiques. Les lois que tout homme, sur lesquelles tout homme peut être d'accord, que tout homme peut reconnaître, comme étant un minimum. Mais le minimum qu'il faut, c'est une loi. Premier minimum, c'est une loi. Si vous ne faites pas de loi, jamais on ne pourra s'entendre. C'est la pagaille, partout. Que ce soit loi de circulation, ou loi de la marche d'un État, loi sociale, loi du sport, peu importe, il faut des lois. La loi, c'est la limite. La limite à partir de laquelle on peut construire. C'est parce que la limite est là qu'on peut continuer, qu'on peut monter à partir de la limite. On peut faire grandir. Ne tue pas, ça veut dire fais grandir ton frère. Mais on va mettre une limite en dessous de laquelle on ne va pas. Pour faire grandir ton frère, il faut commencer par ne pas tuer. Et il faut peut-être découvrir que tu tues là où tu pensais que tu ne tuais pas. Que tuer, ça commence peut-être très loin, très profond. Où est ta violence? Quelle limite donnes-tu, fais-tu à ta violence? Tu manges la chair? D'accord. Tu tues l'animal? D'accord. Mais pas son sang, s'il te plaît. Ne bois pas son sang. La vie de toute chair est dans son sang. Le sang symbolise la vie. Ne mets pas la main sur la vie, ni sur la vie de l'autre, ni sur ta vie à toi. C'est Dieu, ta vie. Dieu est présent dans ta vie. Vous voyez, il y a une concession à la violence. Et en même temps une limite à la violence. Et cette limite, c'est chacun à nous de la mettre. Et cette limite, nous ne la mettrons pas sans ce regard de Dieu. Ce regard de Dieu, d'abord, sur notre propre violence. Il y plonge. Et nous verrons, avec Jésus-Christ, qu'il en est victime. Mais déjà avant. Déjà avant. Puisque il est déjà victime en Abel. Gros problème, celui des générations et celui de la violence. Violence du père contre le fils, du fils contre le père, etc. Et puis, à travers cette violence, l'homme dit, il y a un chemin. Il y a un chemin. On va tous faire pareil. On va faire une grande société des nations, une ONU pour le monde entier. Tout le monde va obéir aux mêmes lois. Tout le monde va faire la même chose en même temps. Uniformisation de tout. Même loi partout. Non seulement dans toute l'Europe, mais dans le monde entier. Même loi, même manière de les faire observer, Même manière de punir les effractions. Même manière. Uniformité. Tout deviendra possible. Tour de Babel. Tout deviendra possible. C'est ça que la tour symbolise. Pour construire une tour, il faut que tout le monde fasse la même chose. Qu'on briquette des briques et qu'on les mette ensemble les unes sur les autres. Et que tout le monde fasse pareil. Alors on veut construire une tour. Sinon, pas moyen. Si chacun veut construire son petit château de sable, jamais on ne construira une tour. Partout le même modèle d'ordinateur. Une seule firme. Vous voyez ? Une seule firme qui fait la loi à tous, à toutes les autres. Donc on ne veut plus le différent. On veut supprimer l'autre. Et supprimer l'autre, c'est atteindre l'autre, pense-t-on. Mais l'autre, ce n'est plus, il n'est plus différent. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est le même. Ça, c'est la grande illusion. La tour de Babel, tous les tours de Babel que nous construisons dans notre vie, il y en a pas mal. Hein. On devrait faire comme ça pour que ça marche dans la communauté. Et on va faire comme ça. Et quand on ne fait pas comme ça, je suis mal à l'aise. Je m'en vais. Vous voyez ? Accepter que la communauté, ce sont des différences. Des différences qui se reçoivent. Et qui font la paix. Et dans ce déluge, parce que dans les communautés, ou dans les paroisses, ou dans les familles, il y a aussi des déluges, que dans ce déluge, il y a de temps en temps qui font surface. Il y a des Noé, des gens qui symbolisent le repos au milieu de tout ça. Et c'est à partir d'eux qu'il faut refaire souche, hein, comme ici après le déluge. Et on parle des langues différentes. Bon, on peut évidemment apprendre les langues. On va en connaître 2, 3, 4, 10, 12, 13. Plus on en connaît, plus c'est facile d'en apprendre. Tout le monde sait ça. Mais voyez, apprendre des langues, c'est déjà apprendre l'altérité. C'est apprendre à recevoir l'autre comme autre, avec sa culture, avec sa religion, avec sa manière de s'exprimer, avec son passé, etc. Ça, c'est évidemment la réponse à Babel. Dispersons-les dans le monde. L'uniformité, ce n'est pas la chose essentielle. La découverte de l'autre comme autre, dans la même réception de l'autre, dans le même accueil, ça oui. C'est d'ailleurs l'envers de Babel, la Pentecôte va montrer cela. C'est la même langue du Saint-Esprit, et chacun la comprend dans sa langue à soi. Mais c'est la même. C'est la même qui inspire chacun. Mais c'est la langue de l'Esprit Saint. C'est la langue de l'accueil. Langue de feu. Pas langue de bois, langue de feu. C'est-à-dire langue de Dieu. Mais Dieu se dit dans toutes les langues. Et dans chacune de nos vies. Et donc chacune de nos vies a une langue particulière. Et si je perds cette langue particulière, si je veux faire comme l'autre, ou avoir l'autre, ou être l'autre, j'oublie de faire vivre ma langue dans le monde entier. Ma langue est essentielle. On ne fera pas des dictionnaires de toutes les langues, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que chacun puisse parler sa langue. Sans violence et être reçu par les autres. Et petit à petit, il y a une humanité qui se façonne. Voilà. L'humanité qui se façonne, c'est la nôtre. C'est celle d'autrefois. C'est celle de toujours. Mais de grâce, acceptons cette grâce d'être différent. Et d'être chacun dans notre différence, image de Dieu. Voilà, ça c'est l'ouverture du livre de la Genèse. 11 chapitres. Et vous allez voir que tous les autres ne vont être que
Je dis réponse.
Bon, aussi.
Mais la mise en œuvre de ces grandes clés fondamentales, les problèmes psychologiques, relations homme-femme, relations frère-frère, les problèmes sociaux, relations entre générations, relations entre pays et langues, et tout cela maintenant va être mis en musique dans une histoire type. Et les types, d'où la typologie. La typologie, c'est lire la réalité, notre réalité de tous les jours, à partir d'une histoire type. Est-elle meilleure que la nôtre? Bien non, sûrement pas. Elle est la même que la nôtre. Elle est la nôtre. Elle n'est pas exemplaire. C'est un exemple, mais elle n'est pas exemplaire. C'est un exemple de ce qu'est une histoire humaine. Deux gens qui ont réfléchi des siècles et des siècles pour découvrir ce qu'ils sont. À partir de leur mentalité, à partir de leur religion, à partir de ce qu'on va appeler la révélation. Une histoire qui pourrait être un salut. Parce que vous voyez que, à travers tous ces textes, il y a chaque fois ce qu'on pourrait appeler des échecs, sur le plan humain en tout cas des échecs. Entre hommes et femmes, ce qu'on devait vivre, on ne le vit pas, on est mis à la porte sans domicile fixe. Entre frères, on se bagarre, on se tue. Entre générations, bah, c'est la défiance, même la défiance vis-à-vis du père. Entre langue et pays, on ne sait même pas se comprendre. Donc, déluge de violence, et ce déluge gagne tout projet prométhéen. Vision pessimiste des choses? Non. Histoire de salut. Histoire de santé. Salut, c'est aussi santé. Salut. Hein, la salut. Le salut, c'est l'intégrité, c'est ce qu'il y a à vivre. C'est la réalité la plus profonde. Le salut, c'est le don. Difficile à définir un terme comme salut. Salut, bonjour. Et c'est le bonjour. C'est tout ça le salut. Histoire qui est salut. Histoire dans laquelle Dieu vit incognito. Ici, il vivait quasiment incognito, comme dans l'histoire du monde. Nos histoires. L'histoire dans laquelle il vit incognito, c'est-à-dire il se glisse à l'intérieur des hommes. C'est-à-dire il devient vraiment l'image. Mais, pour le découvrir, il faut un certain regard. Eh bien, le reste du livre de la Genèse nous dit, voici dans quel sens on peut avoir ce certain regard. Si vous regardez les choses avec le regard que je vous donne, avec de nouvelles lunettes, hein, faut bien, eh bien, vous pourriez peut-être voir des choses qu'à l'œil nu, on ne découvre pas. Ici, c'est quand même le contraire. Regardez un peu les choses sans lunettes à l'œil nu, c'est-à-dire vulnérable. Vous allez découvrir quelque chose de vous. Vous allez découvrir que Dieu se cache dans la violence. Il se cache dans la tromperie, dans le mensonge. Il se cache dans toutes ces réalités impossibles que nous vivons. Se cache. Et quand on l'a découvert, quand on a découvert où il se cachait, comme les apôtres qui étaient malmenés par le Sanhédrin, on ne peut plus ne pas parler. On doit parler, on doit le dire. Quand on peut regarder les choses et les hommes et le monde à l'œil nu, on va peut-être transmettre à l'autre cet œil nu, cet œil vulnérable. Et c'est l'histoire de Monsieur Abraham. Ça commence par là. Par un homme. Il y a un film qui a été tourné, une émission, récemment, et dont j'ai une copie, je ne sais pas s'il y a un magnétoscope ici, on pourrait éventuellement l'avoir, sur Abraham. J'ai entendu des échos de gens qui avaient vu cette émission. C'est un de mes étudiants qui l'a copié et qui me l'a passé. J'ai entendu des avis très divers. Je disais, mais on ne sait plus ce qu'il en est. Est-ce qu'il a vraiment vécu ou qu'il n'a pas vécu, non? Est-ce que c'est historique? D'autres disent, merveilleuse émission. Au moins, on voit clair, on voit des différences de plan. Ah, effectivement. Le reporter qui part d'Hébron, figurez-vous, part d'Hébron. Il dit, pourquoi il se bagarre autour de ce tombeau d'Abraham? Pourquoi se bagarre? Est-ce que c'est vraiment le tombeau d'Abraham, d'abord? Et pourquoi on se bagarre tellement pour la possession d'Hébron? 400 personnes au milieu de 100 000 Arabes qui veulent rester mordicus et qui obligent les soldats israéliens à recevoir des pierres. Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui est l'enjeu? Et en partant d'Hébron, il a enquêté. Il a été trouvé des musulmans de tous les bords. Il a été trouvé des juifs de tous les bords. Il a été trouvé des chrétiens de tous les bords, des agnostiques ou des athées de tous les bords. Alors, il va trouver un savant, un historien. Est-ce qu'Abraham existait? Ah, bien sûr que non, lui, des historiens, c'est une légende. Il y en a tellement, ce sont des mythes. Hein? Un mythe de plus. Il va trouver un bon juif, un juif pieux. Est-ce qu'Abraham existait? Ah, bien sûr, il dit, c'est moi. Deux visions totalement différentes. Quel est l'œil nu avec lequel nous pouvons lire l'histoire d'Abraham? Ça. Comment lisons-nous une histoire comme celle-là pour y lire notre histoire propre? Parce que bien sûr qu'il y a toute une histoire derrière. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a toute une histoire derrière Abraham. Mais pas nécessairement celle que nous imaginons. Une histoire bien plus belle que celle que nous imaginons, car la nôtre est à notre petite limite, hein, nos petites dimensions. C'est tellement mesquin qu'il ne faut même pas en parler. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'Abraham dans une toute autre dimension. Regardez Abraham à l'œil nu. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Le texte. Les gens demandent toujours. Est-ce que c'est historique? Abraham est-il historique? Ou qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est se méprendre sur ce qu'est la Bible. La Bible n'est pas là pour vous dire ce qui s'est exactement passé. Ce qui s'est exactement passé, nous n'en savons plus rien. Et ça n'a pas été conservé par la mémoire des gens parce que c'est pas ça qui les intéressait. Ce qui intéresse les gens autrefois, ce ne sont pas les anecdotes, ce n'est pas le journal, c'est l'article de fond. C'est pas tout ce qu'on raconte, toutes les anecdotes que vous lisez dans votre journal. Ça va passer. Hein, demain, ce sera déjà trop vieux et dans 15 jours, c'est fini. Sauf évidemment pour les procès qui durent généralement plus longtemps. Ça dure des années, ces choses. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a de fait des anecdotes, il y a des, comme nous disons, des faits, qui ne sont pas toujours des événements. Un événement, c'est un fait qui a une signification importante et que l'on perçoit.
Il y a le fait, il y a l'événement, et puis il y a ce qui est historique. On vous dit, ça c'est un fait historique. Enfin, tous, ils sont tous historiques, hein. Mais enfin, quand on dit un fait historique, on l'épingle. On dit, c'est un fait significatif de quelque chose. Fait, ce sont les choses qui se passent. Un événement, c'est un fait qui a déjà un sens particulier dans une histoire, dans le cours d'une histoire. C'est un événement. Ça n'arrive pas tous les jours. Et alors, on dit un fait historique, c'est quelque chose d'encore plus rare. Ça, c'est notre langage actuel. Mais ça n'intéresse pas les gens qui écrivaient à cette époque, même si ils vous citent des personnages, ils vous citent des lieux qui existent ou qui ont existé, en tout cas. Ce qui les intéresse, c'est une histoire qui a un sens. C'est, on va vous donner des faits, on va vous parler d'événements pour vous expliquer le sens de réalité d'autrefois, d'aujourd'hui, de toujours. Ça, c'est de la pédagogie. Ce livre est un livre de pédagogie. La Bible est un livre qui est écrit pour qu'on le lise, pour qu'on le relise, pour qu'il nous nourrisse. Et il y en aura du reste. C'est comme la multiplication du pain. Il y en a toujours. Il y a toujours des choses qui sont restées et que l'on peut reprendre. Donc, au point de vue de la chronologie, il ne faut pas vous y fier. De la chronologie telle que nous la voyons aujourd'hui. Le rabbin dit, il n'y a pas d'avant et d'après dans le Pentateuque, dans la Torah. Ça veut dire que vous mettiez Abraham avant ou après David, ce n'est pas tellement important. Si vous dégagez d'Abraham à David, la typologie de l'un et de l'autre, c'est-à-dire ce qu'il signifie quand on dit typologie aujourd'hui, typologie ou figure, on veut dire la signification soit d'un événement, soit d'un personnage, soit tout simplement d'une chose. Ils sont figures. Et généralement, il y a dans la Bible des séquences, des suites de figures. Des choses qui se répètent. Et quand on voit qu'il y a des choses qui se répètent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond. On atteint quelque chose de très profond. Ça se répète comme des choses qui se répètent dans notre vie. Mais les choses qui se répètent sont aussi toujours différentes. Quand vous voyez des répétitions dans la Bible, deux fois le même texte ou le même récit, faites bien attention. Il y a des différences. Et les différences sont significatives. Alors, il y a des choses qui se sont passées. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire, avec un grand H et au singulier. L'histoire. Ce sont les trucs qui se passent. Et que nous, nous situons de manière chronologique. C'est-à-dire à la suite. Suivant un calendrier type. Ça, ce sont les faits d'histoire, comme nous disons aujourd'hui. Donc il y a des trucs qui se sont passés à certains moments. Et on peut essayer, à travers les textes, notamment à travers les textes du Pentateuque ou de la Genèse, on peut essayer, quand on sait de quoi il parle, on peut essayer de découvrir plus ou moins, non pas à quelle époque ils sont écrits, ça aussi, à quelle époque ils sont écrits, mais de quoi il parle, de quelle époque il parle. Et avec éventuellement quelle précision. Vous pouvez raconter quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous avez inventé, vous pouvez le raconter à des gens comme si vous y étiez et comme s'ils étaient. Ça dépend de l'art du conteur. Est-ce que parce que vous donnez beaucoup de détails, parce que vous citez des personnages, cela s'est nécessairement passé comme tel? Pas nécessairement. Ça dépend du genre littéraire que vous utilisez. Eh bien, mettons, si vous voulez, au départ, il y a des trucs qui se sont passés, c'est-à-dire des faits. Égal, des faits. Ça, c'est le sujet. Peut-on situer l'histoire des patriarches à un moment déterminé? Eh bien, si vous écoutez les spécialistes, c'est-à-dire les gens qui savent, qui ne savent pas, hein, ouais, c'est un spécialiste. Il sait les limites de sa science. Sinon, il n'est pas spécialiste.
Tu es un spécialiste, Jean?
J'ai pas l'impression. Je suis un peu de tout, moi. De temps en temps, à mes heures, oui. Je fais certains travaux d'approche.
De précision. Donc, les spécialistes vous disent, ça s'est passé vers le 18e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà. Époque des patriarches, époque des rabirous. Les rabirous, ce sont des passeurs, hein, des nomades. Et on peut situer cela vers les 1800, 1700 avant Jésus-Christ. Hein, c'est ce qu'on dit. On dit généralement cela. Hein. L'ère, l'âge, l'époque des patriarches. Voilà. Mais ce n'est pas aussi clair que cela. Car certains mettent ces textes au 15e siècle avant Jésus-Christ. Et il y en a même qui vont jusqu'à pratiquement le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le premier millénaire, pardon, avant Jésus-Christ. 15e siècle, premier millénaire. Donc vers les années 1000, plus ou moins. Plus ou moins. 1100 à 1000. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout à fait clair. Surtout qu'ils n'ont pas laissé de traces. Hein. Et personne. Abraham n'écrivait pas, alors il n'a même pas laissé de lettres. Dommage, mais enfin, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire. Il s'est passé des choses avec des passeurs, c'est-à-dire avec des nomades. Et ces nomades ont été reconnus à une époque difficile à préciser, peut-être au premier millénaire, époque de David et de Salomon, peut-être, ont été reconnus comme les ancêtres de ceux qui habitaient Israël à ce moment-là. Reconnus comme nos ancêtres les Gaulois. Hein? Difficile à dire. Hein? On peut savoir plus ou moins comment ils vivaient. Là aussi, on peut savoir plus ou moins comment ils vivaient. Mais enfin, ça reste là. Il y a des gens qui ont existé donc vers le, disons, vers 1800-1700. Ah, disons ça. Plus ou moins. Avant Jésus-Christ, bien entendu. Mais là, on n'en a plus qu'un souvenir plus ou moins vague. Mais ce que ces gens-là ont vécu a été raconté longuement. Surtout quand il s'agit d'un chef de tribu, par exemple. Alors, comme le chef de tribu est toujours le héros, tout lui est arrivé au chef de tribu. Et on peut comprendre, il a l'expérience. Même ce qu'il n'a pas vécu lui-même, il le sait parce qu'il a entendu parler. C'est le sage de la tribu, le cheikh. Et donc, on raconte à son sujet beaucoup de choses. Et quand on veut raconter des choses qui nous sont arrivées, ou qui sont arrivées à nos parents, qui n'étaient pas le chef de la tribu, mais on les met au compte du chef de la tribu. Parce que lui, c'est un héros. Mes parents, encore, ce n'étaient pas des héros. Mais lui, c'est un héros. Alors, les choses valables, on les lui met sur le dos. Est-ce que ça veut dire qu'il ne les a pas vécues? Attention! Attention! Sur le plan de l'histoire, non. Mais sur le plan des histoires qu'on raconte à propos de l'histoire, oui. Oui, parce que c'est son histoire qui continue. Mais l'histoire vit au-delà du personnage. Nous ne lisons pas l'histoire comme cela. Nous pourrions dire, bah, c'est l'esprit, ils vivent selon son esprit. Oui, ça ce sont des manières de parler modernes. Mais on raconte des histoires sur son histoire. Quelle est l'historicité de ces histoires qui sont racontées sur l'histoire? Mais on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas historiques, puisqu'on raconte des expériences. Et que ces expériences, même si ce sont des expériences entre 1800, 1700 avant Jésus-Christ et 1000 avant Jésus-Christ, voilà, 800 ou 700 siècles d'expérience qu'on vous raconte. Ben, ça, c'est historique quand même. Une expérience, ça se situe aussi dans le temps et dans l'espace. Faut pas négliger tout ça.
Donc, les histoires de l'histoire sont déjà beaucoup plus étoffées
et aussi historiques
que l'histoire première. Mais ça a grossi cette histoire parce que les premières choses que l'on a dites de ce cheikh ont continué à vivre dans son peuple.
Et qui dit cheikh dit peuple. Est-ce que le peuple vit, le cheikh l'a vécu?
Il est porteur de tout cela. Mais on le raccroche à un personnage qui a probablement vécu.
On essaye de trouver. Tiens, est-ce qu'on trouve des noms Abraham, hein, dans les civilisations circonvoisines?
Pourrait.
Difficile à trouver des Abraham.
Oui, des Terach, d'autres personnages qui sont là. Oui, 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 on les trouve. On trouve dans d'autres textes.
Donc de Marie ou bien de Nousi, hein, c'est-à-dire d'anciennes civilisations, le long de l'Euphrate.
On retrouve des noms semblables.
Mais un Ibrahim ou un Abraham, Avram, on n'a pas encore trouvé.
On a cru parfois comprendre, mais difficile à dire. Enfin, ça ne signifierait pas encore grand-chose. Parce que tous ces cheikhs, ces chefs de tribus, hein, les éponymes, ont vécu dans la mémoire de leur peuple. Alors, de ces histoires racontées sur l'histoire, on a fait des traditions, précisément. Des traditions, ce sont des choses qu'on se colporte. D'abord orales. On n'écrit pas encore à ce moment-là. Ce sont des choses que l'on se colporte. Et ces traditions que l'on raconte dans telle ou telle tribu, ou bien dans l'ensemble du peuple, devient petit à petit une histoire des histoires sur l'histoire. Oui. On en fait une histoire. On vous raconte cela d'un trait. Et on met tout bout à bout. Et alors, on veut parler de telle tribu, et puis on veut parler d'une autre tribu, mais quel lien y a-t-il? On vous en faites pas. L'une tribu est la fille de l'autre. Dit en d'autres termes, Isaac est le fils d'Abraham. Les personnages deviennent, c'est-à-dire, comme le corps de la tribu. Le corps dans lequel la tribu relie toutes ses expériences. Et donc ces traditions sont déjà une histoire, un texte, des histoires que l'on a écrites à partir d'une histoire. Vous voyez, à chaque passage, ben, il y a l'adjonction de quantité de choses, mais qui sont historiques. Parce que c'est chaque fois l'expérience de personnes qui, se reconnaissant dans ce personnage qu'elles racontent, y mettent aussi de leur propre expérience. Un petit peu comme si vous faites une histoire de la famille royale belge, vous mettez des photos, hein, qui ont été prises par vos parents, puis les vôtres, etc. Et puis voilà que vous voyez tout d'un coup la reine qui embrasse une petite fille, et puis vous avez été enquêté sur la famille de cette petite fille, et puis vous allez prendre en photo les parents de la petite fille, le grand frère, la grande sœur, etc. Vous allez mettre tout ça dans la même histoire. C'est la même histoire au fond, hein. C'est l'histoire de la petite fille qui a rencontré la reine à un certain moment. Donc toute la famille a rencontré la reine. Vous voyez, c'est tout simple. Ce sont des choses que nous faisons. Et pourquoi ne le lisons-nous pas quand nous prenons un livre qui dit cela? Alors, vous avez des traditions qui font une histoire des histoires de l'histoire, bien entendu. Et tout cela finit par faire ce qu'on pourrait appeler un livre. Le livre de l'histoire des histoires de l'histoire. Un livre. Quand est-ce que le livre a été composé? Oh, là, il y a des théories très diverses. Comment ça s'est fait, un livre? Les uns disent, bon, il existait toutes sortes de fragments.
qu'on appelle la théorie des fragments.
Il existe des fragments. Des petites histoires séparées. Comment ils le savent? Ça, c'est une hypothèse. Il existait des histoires séparées, et puis, un beau jour, à l'époque de Salomon, vraisemblablement, parce qu'il y avait une cour, il y avait des gens lettrés, il y avait des scribes, on a voulu faire une bibliothèque, si vous voulez, on a rassemblé tous les fragments, et on a fait un livre avec tous les fragments. C'est une hypothèse. C'est possible. Il y avait des trucs sur Abraham, bon, on a... Il y avait des trucs sur Abraham, peut-être un autre personnage, on les y a mis. Il y avait des trucs sur un Isaac, on les y a mis. Des trucs sur un Israël, on les y a mis. Un truc sur des Jacob, on les a mis. On a mis tout ça. Et puis, on a essayé d'en faire une histoire. Une histoire suivie. Bon, c'est une hypothèse aujourd'hui. Une autre hypothèse, c'est ce qu'on appelle la théorie des compléments. Toujours des théories, hein? Rien de certain dans tout ça. Enfin, il faut en faire des théories quand on n'a pas de certitude. Complément, c'est-à-dire que Salomon, époque royale, intéressant, époque royale. Donc, l'époque royale, David et Salomon, ce sont des gens qui ont fait écrire pour légitimer évidemment leur position de roi. Donc, légitimer la descendance d'Adilée. On comprend bien. On n'écrit jamais pour rien. C'est parce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire comme on le raconte pour se faire valoir. Hein. Duteil. Très très beau chant. C'est parce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire comme on le raconte pour se faire valoir. Complément. On a écrit une histoire et puis on a ajouté des trucs à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, etc. Hein? On a raccroché. Oh, il y avait encore ça. On va le remettre. Et quand on ne sait plus où on le met en appendice, croit-on. Dans la Bible de Jérusalem, vous avez plusieurs fois appendice ou addition. Attention, là, ce sont des choses intéressantes. Ce ne sont pas du tout des additions ou d'appendices.
C'est des relectures.
Ben oui. Et donc, elles nous disent quelque chose d'important sur l'histoire. L'histoire de la rue. Donc, alors, il y a la fameuse théorie que vous avez probablement appris, une troisième théorie, fragment, complément, ce qu'on appelle les documents. Bon, c'est ce qui a fait fureur depuis la fin du siècle passé, jusqu'aux environs des années 50. Maintenant, elle est fort battue en brèche. La théorie des documents. Je vous dis, ben, écoutez, au départ, il y avait un document qui parlait de Dieu comme de Yahvé. On l'a appelé J, ce sont les Allemands qui ont fait cette théorie, c'est Wellhausen. On l'appelait J, Yahvé, en allemand ça commence par la J. Et c'est ce sont des textes qui venaient probablement du territoire de Juda et qui ont été composés vers l'an 900, 2000 à 900, et qui ont été mis par écrit à peu près à cette époque-là, 950, 930, quelque chose comme ça, du royaume du Sud. Donc, des documents qui voulaient légitimer la royauté de David de Salomon. Mais il y avait aussi des textes où on parle de Dieu en disant Elohim, c'est-à-dire Dieu. Yahvé, c'est un nom propre, Elohim, c'est un nom commun. La divinité. Bon, ça c'est une autre source. Hein, un autre document qui venait, lui, du Nord, où on parlait de Dieu, plutôt. Toujours hypothèse, hein. Et ils ont été ajoutés après. À l'époque de Josias, plus ou moins, 7e siècle, lorsque on a essayé de tout regrouper, on dit probablement à l'époque de Jésus, ou bien même plus tôt, 8e siècle. Maintenant, la plupart des exégètes suppriment totalement cet éloïste. Et ça, c'est une vue de l'esprit, ça n'a jamais existé. Il y a eu peut-être des traditions, mais est-ce qu'il y avait des documents? Il semble que non. Donc, nous allons
temporairement.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'après l'exil, ce qu'on appelle l'école deutéronomiste, qui a ajouté tout le Deutéronome, donc 5e siècle, tout le Deutéronome, et l'école sacerdotale, que l'on appelle P, parce que ce sont les Allemands qui parlent de Priester Codex, hein, le codex de livre des prêtres, ce sont deux écoles, deux théologies différentes, qui, après l'exil, ont réécrit, à partir vraisemblablement de documents anciens, qui ont réécrit l'histoire. Le Deutéronome a fait, l'école deutéronomiste a fait un ensemble, a fait une histoire courante, qui allait depuis la création jusque à la fin de la royauté. Elle englobe et le livre de Josué, et le livre des juges, et les deux livres de Samuel, et les deux livres des rois. Donc c'est toute une grande histoire, que l'on appelle deutéronomiste, parce que c'est une relecture, une deuxième lecture, deutéros nomos, une deuxième loi, une relecture de la loi. Bon. Et donc il aurait fait, lui, un grand document historique. Avec des légendes, avec des épopées, avec de l'histoire, finalement. Et alors, tout aurait été revu par l'école sacerdotale, qui aurait ajouté son grain de sel, c'est-à-dire les fêtes, les sabbats, les prescriptions, un certain nombre de lois, pour montrer combien c'est...